Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons consacrer la séquence d'aujourd'hui à la métive, à la moisson et à la batteuse. Pour les textes, nous allons le faire en compagnie de Charles Sylvestre, Pleine Terre, Au soleil des saisons, La prairie et la flamme et Le voyage rustique. De Jean Blanza, un extrait de Enfance, de Pierre Gourceau, La société rurale en Limousin et basse marche, de Paul Lavergne, un extrait de son recueil Les joies de l'été, et de Pierre Delage, Travaux et occupations jadis à la campagne, la moisson.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans son roman « Pleine terre », Charles Sylvestre interroge un vieux paysan qui nous parle de la métive, de la moisson. « J'ai une bonne pièce de blé au bout du chemin, dessus la colline. Il est bien venu. Faut pas dire le contraire. Mais les trombes d'eau l'ont couché et il est un peu échaudé à cause des gros soleils. Oh, c'est pas grand-chose. Y a pas trop de mal. Tout autour, il y a trop d'arbres dans le buisson et ça me fait deuil de les arracher. » Mais c'est vrai que les ombres mollissent les tiges et un petit vent, ça les met par terre. Il faut beaucoup d'air. Avec ma faux armée, j'arriverai quand même à les couper. Vous avez vu la mécanique devant la porte du forgeron? Ah, il ne faut pas s'en moquer. Je sais que ça fait du travail, ces engins. Mais dans un champ où les blés sont traversés, on s'en tirerait mieux peut-être avec la faux. Dans les grands domaines, d'un seul tenant, ça avance mieux qu'une troupe d'hommes courageux. Moi, ça ne peut pas me servir. Et puis, ça coûterait trop de sous. Dans mon jeune temps, ajouta-t-il, on coupait le blé à la faucille, ou bien à la faux armée. Il y avait assez de garçons et de filles pour la besogne. Ce vieux paysan avait battu au fléau. Il savait ce que c'était qu'un grain de blé avec sa franche écorce et quand il arrivait à son fin degré. Le bon grain, il se casse tout sec, entre les dents, comme du verre. À l'œil, il est plein, un peu luisant. J'en ai connu des farceurs qui en avaient du mauvais et du pas bon. Ils le faisaient reluire avec de l'huile. Mais ça se voyait, à moins d'être aveugle. Il faut qu'il ait son franc poids. Si vous le jetez dans l'eau et qu'il flotte, quelle misère! Parlez-moi du tas où la main s'enfonce bien à l'aise, à l'oreille, le grain fait un bruit comme une pluie sur une feuille bien sèche.
Fête de famille, quand vient l'été, communion mariage jubilé, dans la cour sous une tente dressée, tous les amis sont rassemblés. Moisson alors est planifiée, tous les rôles sont distribués.
La moisson, nous dit Albert Gourceau, commençait aussitôt après la rentrée des derniers foins, dès que l'on jugeait que le grain était suffisamment mûr, mais jamais un vendredi. En 1900, époque où l'on cultivait encore beaucoup de seigle, on commençait par cette céréale plus précoce que le froment et aussi parce que sa paille, plus longue et plus souple, fournissait des liens excellents pour les autres blés. Elle se terminait à peu près partout dans la première décade d'août, faisant ainsi mentir pour quelques jours le proverbe « À la Saint-Pierre au lien », c'est-à-dire le 1er août, « Chaque gerbe a son lien ». Monsieur Delage, dans son article sur la moisson, confirme ce calendrier. Une fois les foins terminés, il se passait quelques jours de battement avant de commencer à moissonner selon le comportement du temps. Le soleil qui sèche les foins mûrit aussi les blés, disait un dicton. Mais les saisons peuvent varier quelquefois de plusieurs semaines. En 1871, on commença la moisson la veille de la Saint-Jean, m'avait dit un vieux patron. Par les années pluvieuses, le blé n'est mûr qu'au 14 juillet. Ainsi, en attendant de prendre la faucille, on passait dans les récoltes détruire les mauvaises herbes. On semait le blé noir. Enfin, par une belle journée ensoleillée, on se préparait à couper le seigle d'abord.
As-tu parfois sous l'armure à l'heure où chantent les épis. Écoutez leur joyeux murmure au bord des vallons assoupis. Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chantée parmi la moisson blonde, les doux refrains d'un pur amour? Mignonne, quand le soir...
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
L'outillage, dans le passé, écrit Albert Gourceau, était composé uniquement d'outils à main. Les femmes se servaient de la faucille à la mince et dentée, à courbure prononcée et très fermée, avec laquelle elles sciaient la paille. Tandis que les hommes préféraient le volant à large lame et à courbure ouverte, que l'on battait et aiguisait comme une faux, avec lequel la paille était tranchée. Quant aux enfants, on leur donnait, de préférence à la faucille, un petit volant à leurs mains. Pour lier les gerbes, ceux qui éprouvaient des difficultés pour effectuer ce travail à main nue se servaient d'un liadour ou d'un bilot, petit bâton recourbé d'une trentaine de centimètres de long, pourvu parfois d'encoches. Avec un jeu de fourche à deux brins pour charger les gerbes, la forge et le marteau servant à battre les volants, enfin la pierre à aiguiser dans son étui, voilà quel était l'outillage des moissonneurs.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pierre Delage nous donne des précisions sur la faucille. Ce n'était qu'une lame d'acier courbée en forme de croissant, pointue d'un bout et de l'autre généralement coudée et amincie, munie d'une poignée en bois percée d'un petit trou dont le sens longitudinal est longue de 12 à 15 cm avec des évidements pour qu'elle ne glisse pas dans la main. Les faucilles de cette époque étaient très étroites, avec un taillant garni de toutes petites dents dans le genre d'une scie à métaux. Et seuls, les forgerons étaient capables de leur redonner du tranchant quand elles en avaient besoin. Ce travail se dénommait tailler ou piquer une faucille.
Plus lourds s'en iront les chalands, quand nos mains auront fait les moissons, et nous reviendrons à Palans sous un ciel tout vibrant de chansons. Alors les fiancés apparaîtront main dans la main, et nous irons danser dans les greniers, pleurant le grain. La tête est basse et je vois le soleil ici haut, que j'aimerais m'arrêter au flanc d'un coteau. Mais la moisson va se lever pour nous demain, et nous la brasserons à pleine main.
À cette époque, les moissonneurs, comme les faucheurs le mois précédent, passent la journée entière au champ et bien sûr, on leur porte le repas sur place. Et écoutons Charles Sylvestre dans Pleine Terre. Les gens de besogne et de bonne volonté sont au champ dès la première pique du jour. Au fort de la chaleur, une vieille maman ou quelques petites filles apporteront leur manger et leur boire. La bouteille de vin, un peu de salé et des œufs, un bout de confit d'oie, un morceau de galette aux prunes, tout bien rangé dans un panier à couvercle. Il ne faut pas perdre une heure. La table sera servie sur le pouce au bord de la haie, une lampée, à peine le temps de se garder le jabot, et chacun se remettra à l'ouvrage. Et bon pied, bon œil, on ne rechignera pas jusqu'à la tombée de la nuit. D'autres bouteilles sont au frais dans le buisson, et quand le soleil descendra, une ménagère apprêtera dans une soupière le vin sucré où chacun trempe un morceau de pain. Selon les régions de la basse marche, ce mets rafraîchissant portera le nom de mijot, de mijet ou de trempette.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Mais le temps est compté et le repas est finalement vite pris. Il faut vite reprendre le labeur. Alors comment utilise-t-on cette fameuse faucille ? La poignée de paille était prise de la main gauche, sauf pour quelques gauchers qui opéraient inversement, et en même temps qu'on passait la faucille sous la main et qu'on tirait vers soi dans un sens presque horizontal, on poussait la poignée de paille en avant pour éviter de se couper les doigts. Mais on avait beau être attentif, il était rare que l'on ne se coupât pas durant toute la période. J'étais encore gosse quand j'ai débuté. Si je me coupais, je criais vite à ma mère qui me répondait « Il faut se couper 9 fois dans la même journée pour devenir un bon moissonneur. » Maigre consolation. Avec pour seul remède, un pétale de fleur de lys mariné dans l'alcool et appliqué sur la coupure. Quand on avait sa pleine main, on mettait la poignée de paille à l'horizontale et toujours, avec l'aide de la faucille, on la séparait de la partie non coupée car pour le seigle notamment, les tiges étaient enchevêtrées et on la posait délicatement en travers les sillons. Notons, nous dit Albert Gourceau, que le travail de la moisson, de la métive occupait dans chaque famille toute la maisonnée, à l'exception de la maîtresse de maison, accaparée par les soins à donner aux animaux et par la préparation des repas dont les menus devaient être soigneusement renforcés. À titre tout à fait exceptionnel, même les jeunes mamans devaient participer à ce travail de la moisson. Celles qui allaitaient emportaient leur bébé au champ, elles le couchaient à l'ombre et de temps à autre venait lui donner à téter. Pour faucher, ajoute-t-il, on se groupait en ligne oblique, chacun coupant le blé d'un sillon. Le plus souvent, c'était le maître de maison qui prenait la tête du groupe, car il était important de bien régler la cadence de travail, étant donné le caractère composite de l'équipe. Le blé coupé était ensuite mis en javel d'une dizaine de poignées que l'on déposait à plat sur la crête des sillons.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Poursuivons avec Pierre Delage. Si le seigle et le blé étaient exempts de mauvaises herbes, les javels étaient liés, rentrés le même jour avant le coucher du soleil, afin que la paille ne prenne aucune humidité pour être plus facile à battre. Quand il y avait de l'herbe encore vert à travers, on ne pouvait pas tout trier, sauf les chardons. On attendait le temps nécessaire pour que les javels soient sèches. Pour lier, on prenait les javels dans ses bras et attention au serpent. Quand on pressentait qu'on avait la grosseur d'une gerbe, on en séparait une petite poignée qui devait servir de lien. On faisait le tour de la gerbe, on rejoignait les deux bouts en tirant fort, tout en appuyant avec le genou pour que la gerbe soit bien serrée.
V'là les moissons qui prennent couleur, v'là les paysans qu'en prennent aussi. Les moissons pâlissent de peur, les paysans rougissent d'envie. Et les faucilles qui s'apprêtent à mettre à bas les grands blés mûrs ressemblent un peu aux baïonnettes face aux prisonniers dos au mur.
Les gerbes étaient ensuite chargées en travers sur les charrettes disposées en rangées doubles et croisées, de telle façon que les épis se trouvassent toujours vers le centre. Cette opération se faisait avec précaution, qu'il s'agisse de tendre les gerbes à la personne chargée de les arrimer sur le char, ou pour cette dernière, d'équilibrer son chargement. La rentrée du dernier char de blé était marquée par la cérémonie de la gerbe baude, réjouissance populaire avec décoration du char par du feuillage et grand repas à la ferme. Mais, en fait, cette cérémonie était peu pratiquée en basse marche et les réjouissances étaient reportées à la fin des battages.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.
La moissonneuse lieuse va apparaître dans nos campagnes un peu avant la guerre de 14-18. Cette machine fut inventée en 1872 par Charles Whittington. Comme la moissonneuse, elle fauchait les tiges des céréales, mais en outre, elle permettait de les lier automatiquement en gerbes. Au départ, la machine utilisait du fil de fer pour lier les gerbes, ce qui causa de nombreux accidents aussi très vite. On remplaça le fil de fer par de la ficelle. Les premières moissonneuses lieuses étaient tractées par des chevaux ou des bœufs et actionnées par une roue dentée. Dès les années 1950-1960, les bœufs furent remplacés par des tracteurs. Les tiges fauchées tombaient dans une toile qui les convoyait en arrière vers le mécanisme lieur. Ce dernier formait les gerbes et les liait à l'aide d'une ficelle. Une fois celle-ci nouée, la gerbe était déversée au sol à l'arrière de la machine. Dans son roman « Enfance », Jean Blanza nous parle des chemins que l'on trace à la faux pour permettre le passage de la moissonneuse lieuse. Mais un matin, un bruit exorciseur monte derrière une haie. C'est le jacassement de la faux qu'on aiguise. C'est en fait le sortilège de l'été qui se brise. Maintenant, tout va redescendre. Un éclair part au ras du sol et tout de suite après, on entend la chute d'une chose lourde dans l'herbe épaisse comme la tonte d'une langue large. Les marguerites, les régras, les dactyles chancellent, s'inclinent, tombent. Les hommes font place nette devant eux. Ils révèlent le visage nu de la terre, les ruisselets, les rigoles, les taupinières, les barrières, les haies, les chemins. Puis la crécelle des moissonneuses escalade les coteaux dorés. Les bois reculent, reprennent leur place véritable. D'immenses étendues s'ouvrent devant le pas des moutons. L'été est frappé. On a détruit les repères d'herbe où il concevait ses silences et déversait sa chaleur. On a traqué son mystère. Les blés sont coupés, les gerbes sont rentrées dans les granges, il faut maintenant battre les épis pour en extraire les grains. Avant d'en arriver aux batteuses, nous allons nous intéresser au battage au fléau avec ce texte de Jean Blanza, extrait lui aussi de « Enfance ». De la grange partent soudain les coups de fléau. Les hommes utilisent le répit, à quoi les oblige la pluie, pour commencer à battre la récolte. Les chocs se succèdent sur un rythme à trois notes qu'on entendrait des bois voisins. Le son éclate quand la gerbe aplatie et éparse ne protège plus le plancher. L'enfant court au travailleur. Il se suspend au portail de bois qui grince en tournant. Il regarde monter alternativement les trois bâtons tournoyants que l'usage a dorés. Il prévoit la place et le bruit des chutes. Le rythme monotone l'obsède et chasse ses pensées. Il s'exerce à le reproduire en frappant son genou. Il exulte dès qu'il obtient l'alternance des deux notes. Les hommes lui disent « Va-t'en, tu gênes !» Il demande alors qu'on le hisse sur le tas de gerbes. C'est là sa place favorite. Les hommes, entre deux efforts, se rapprochent. L'aïeul se baisse et, grattant la paille, il recueille dans sa main un peu de grain. Ils vont tous les trois vers la clarté de la porte. L'aïeul élève une main et dans l'autre laisse tomber le grain. Un souffle de vent pluvieux le vanne au passage. Tous trois considèrent ces choses dorées au creux d'une main calleuse. Et bientôt, la chanson monotone des fléaux redit à nouveau aux bois mouillés et immobiles, aux prés jonchés de feuilles et traversés d'eau vive, aux chemins tristes qui mènent aux champs déserts, l'annonce des jours de maigre lumière.
Et ronfle la batteuse, les blés sont engrangés, la jeunesse est joyeuse d'avoir bien travaillé. Jadis à sa machine, tout bon mécanicien avait la fière mine d'un conducteur de train. Le nôtre est à la page car près de son moteur, pour nous donner courage, il sifflote en douceur. Et ronfle la batteuse, les blés sont engrangés, La jeunesse est joyeuse d'avoir bien travaillé.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Écoutons maintenant Louis Peignot qui va nous faire entrer dans la modernité. Vers la fin du siècle dernier, il s'agit du 19e siècle, les fléaux ne frappaient plus l'air des granges que pour battre le blé noir ou le colza. Par un soir d'août, au fond de la vallée, sur le chemin rocailleux, entre les rangs des vieux chênes qui le bordent et l'enserrent étroitement, montent des appels, des cris, des jurons, fusent les noms des bœufs attelés que l'on excite. Des lumières vont et viennent, faible lueur des lanternes qui éclairent tout juste les pieds des bouviers. Dans un bruit de ferraille, deux lourdes machines pénètrent avec peine dans la cour devant la grange à blé. Notre ancêtre, bâtisseur du village Limousin, n'avait pas prévu la batteuse. Mais grâce à la peine des hommes de la terre, habitués à ne pas se ménager, tout s'arrange. Celle qui ne voyage que la nuit, tant elle a d'ouvrage quand il fait jour, pourra demain, aux premières clartés de l'aube, prendre la place des fléaux. En quelques heures, elle abattra leur travail de tout un hiver, les humiliant, les recouvrant de sa poussière, eux et tous les vieux outils remisés au fond de la grange. La batteuse, la première grande machine agricole qu'ont vue nos campagnes, elle reste toujours l'objet d'une sorte de culte. Sa venue est une solennité à l'égal des fêtes patronales. On la fleurit de bouquets et on l'appelle la mariée. Les enfants ne dorment pas tout le temps qu'elle reste au village. Ils veulent être les premiers à répondre à l'appel impérieux de son sifflet au petit jour. De cette batteuse qui impressionne tant les enfants, Paul Lavergne a écrit un poème dans son recueil « La joie de l'été ». Voici venir le mois d'août fauve, lourd de la poussière des blés, et les soirs pesants quand la batteuse bourdonne sous l'auvent des fermes. Le grain coule, les sacs s'entassent comme au petit moulin de campagne, et le maître est à la bascule pendant que les manœuvres chantent. La scène est grande. La paille blonde crisse, la balle du blé vole, les roues noires de la machine tournent en cadence, des hommes et des femmes s'agitent, toute la campagne retentit pendant que le blé s'entasse et que le maître veille. Le métayer aura le soir le compte de ses peines et sur sa face brune un éclair de joie brillera. Dès l'aube, au lendemain, il prendra sa tâche. C'est le travail de cet homme qui est grand, c'est la vie de cet homme qui est bonne.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans La prairie et la flamme, Charles Sylvestre nous fait récit de cette ancienne batteuse. Pendant la première quinzaine du mois d'août, les gens de la campagne commencèrent à battre leur blé. La batteuse, traînée par deux paires de bœufs, arriva au seuil des métairies cachées sous le feuillage des châtaigneraies. Elle venait sous la forme d'une petite locomotive. On la chauffait bien. Les courroies posées, elle se mettait à ronfler et à piaffer. Alors, tout ce qui avait figure humaine dans ce coin de terre l'entourait et la servait. Les uns grimpaient sur sa mâchoire trépidante et lui donnaient sans cesse à manger des gerbes. Les autres recevaient la balle dans des draps tendus aux quatre coins. Ils se démenaient, le nez et la bouche pleins de poussière. Ils travaillaient dans un nuage. D'autres encore surveillaient les sacs pendus au guichet d'où coulait le grain, impatients de les peser et de les charger sur leurs épaules. La fièvre paysanne avait l'odeur des plantes brûlées. On buvait des coups de vin purs. On faisait brèche dans des grands pots de salé. On mangeait et on pintait comme on n'aurait pas osé le faire pour les fêtes de Noël. Il y avait des exécutions en masse dans les poulaillers où ne survivaient que les vieux coqs mécontents. Les grands-mères passaient leur temps à plumer et à trousser les volailles, à dépouiller les lapins de toutes couleurs. L'or du blé avait couru par là, il importait de le prouver. Le soir, la petite locomotive jetait de longs sifflements aigus et d'autres sifflements lui répondaient à une lieue à la ronde. Poursuivons toujours avec Charles Sylvestre, mais dans Au soleil des saisons cette fois. Ces jours-là, nous dit-il, on voit trôner sur de longues tables la tête de veau dans son cuir, les civets, les ragoûts, les tartes et les pâtés se succèdent. On perce une barrique de vin, vide sonore, à force d'en tirer des litres et des gobelets. Demain, on fera maigre, sans ordonnance de carême peut-être, mais ce soir il importe de se tailler un bon devant de gilet et de rire. On éventre le sac des anciens refrains et des contes à malice, et jusqu'à la minuit, on s'en donne. Si quelque convive ne sait pas manier comme il faut l'accordéon, il y a toujours dans l'assemblée un bonhomme qui conduit la danse en chantant, en marquant la mesure de la pointe de son bâton, tra-la-la-la-la, et ça va. Et quand la liesse est tombée, ajoute Charles Sylvestre dans Le Voyage rustique, il y a dans les hauteurs bleues l'amertume de ce qui est accompli. Un grand feu s'est retiré des champs et des hommes. On se replie, la promesse dépassait la récolte. On suppute au creux de la paume, chacun pèse son grain et lui-même. Le paysan porte ses sacs au grenier, il se courbe sous la charge dont il vibre. Le plus chétif tremble plus d'orgueil que de peine. Il ne laisserait ce soin à personne, et ses pieds nus s'agrippent durement aux échelles. Des mains brûlées au même soleil ont leur récompense et leur fraîcheur quand elles plongent dans la masse du blé répandu en ombre d'or sous l'arbre de la charpente. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à la moisson et à la batteuse. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne, de Jean Blanza, d'Albert Gourceau et de Pierre Delage. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux chanteurs Fabienne Thibault, Bob, Yves Montand, Michel Boudot et au groupe Maluzerne, les Enfants d'Aramon, les Folqueux du Grand Couvert et la Petite Moisson que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Très bonne semaine à vous tous et donc à très bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.